Alors, on était sous la bannière des risques connus, et c'est quelque chose qui m'a un peu interpellée. Je pense que les pesticides, c'est un risque reconnu, c'est-à-dire qu'on considère comme vrai aujourd'hui. Connu, je me dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est peut-être la faiblesse des chercheurs de se dire qu'il y a toujours des pas plus loin pour avancer. Mais en tout cas, cette petite hésitation. Reconnu, je pense qu'on y est, et connu, paradoxalement, peut-être qu'il reste encore des choses à faire. Donc, je voulais essayer de structurer cette présentation en vous redonnant des éléments de contexte. J'ai beaucoup simplifié les messages aujourd'hui. Je ne vais pas aller dans le cœur des études, mais bien sûr, c'est ouvert à discussion. Vous rappelez quand même les connaissances épidémiologiques aujourd'hui acquises, et puis les limites de ces connaissances et d'éventuelles perspectives de recherche, avant d'insister, puisqu'on est quand même sur un public relativement local, sur des particularités des données plus régionales. Alors, la présentation de Bernard Verret ce matin commençait par une image choc concernant les téléphones immobiles avec une image de squelette. Donc, je vais quand même rappeler qu'on est sur un mot qui est fort d'emblée. Si on prend en tout cas la terminologie et qu'on essaye de remonter à l'étymologie, on a quand même dans le terme pesticide des choses qui sont un peu brutales. On a à la fois le terme de peste et le terme de cide, donc on associe quand même la peste et la mort. Donc, d'emblée, c'est un thème qui, évidemment, va choquer ou du moins va stimuler l'imagination des médias et qui place ce sujet-là au cœur des discussions dans tout un tas de débats de société d'un certain nombre d'intervenants, notamment les médias. Alors, il faut savoir que si c'est le terme qui aujourd'hui est effectivement retenu, et ça parce qu'également c'est le terme anglais qui correspond le mieux à ce sujet dont on va traiter, il y a bien d'autres terminologies qui sont utilisées, comme les produits phytopharmaceutiques, les produits phytosanitaires, les produits de santé des plantes, pour aller encore un petit peu plus loin dans le positif. Alors, ce n'est pas totalement neutre, les terminologies utilisées. Vous verrez qu'elles varient en fonction des intervenants. Pour moi, le terme de pesticide, ce n'est pas pour vous secouer sur la mort et sur la peste, mais plus pour utiliser la terminologie qui, d'un point de vue scientifique, est reconnue et adaptée. Alors, on va rester sur des définitions, parce qu'en fait, on se rend compte que, contrairement à peut-être d'autres domaines de l'environnement, on se fait une idée des pesticides, a priori. On identifie quelque chose de concret. Contrairement peut-être aux OGM ou même aux champs électromagnétiques, on se fait une image de ce que ça représente, avec des fois des marges pas forcément très claires sur qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on retire. La définition usuelle du petit Larousse, c'est des produits chimiques qui sont destinés à lutter contre les parasites animaux et végétaux nuisibles aux cultures. Mais on s'aperçoit que la définition réglementaire ajoute un certain nombre de substances à celle-ci. Et que, par exemple, la définition réglementaire du pesticide, notamment à usage agricole, inclut aussi des régulateurs de croissance, des produits qui assurent la conservation des végétaux, également des défoliants ou d'autres substances. Je voulais aussi préciser que, de plus en plus, le terme de biocide est également, rentre dans le langage courant, à côté de celui des produits phytopharmaceutiques, avec une définition réglementaire, mais qui recouvre, elle, des pesticides à usage non agricole, et dont on ne peut pas faire la liste ici parce que c'est un petit peu long, mais qui inclut des désinfectants, des produits de protection du bois, des antiparasitaires, etc. Donc il y a bien des définitions réglementaires qui recoupent en partie la définition usuelle et l'image qu'on s'en fait, mais qu'il est souvent nécessaire de remettre quand même au premier plan parce que finalement, des fois on se demande est-ce que mon décapfour est un pesticide, est-ce que l'eau de Javel est un pesticide. Enfin, on a régulièrement ce type de questions, et donc c'est important de s'appuyer sur une définition admise. Alors, on en vient ensuite à la classification qui fait un peu, justement, pendant cette définition. On s'aperçoit que c'est un vaste domaine extrêmement hétérogène et que ça, c'est un point clé, justement, par rapport à la recherche d'effets de santé. Parce que vous voyez aussi bien des molécules très simples comme celle-ci, qui est la bouillie bordelaise, en résumé, ou bien des molécules beaucoup plus compliquées comme l'esbiotrine, qui fait partie de ces pesticides dont on parlera plus tard, domestiques, qui sont dits naturels, dérivés des pyréthrinoïdes. Donc vous voyez, la structure chimique est quand même assez compliquée. Donc, un ensemble hétérogène qui finalement est représenté par un nombre très vaste de spécialités commerciales. Et on les trouve dans des compositions très diverses. J'ai mis plus de 9000, mais le chiffre exact n'est pas connu. Les substances actives correspondantes à la molécule chimique, c'est de l'ordre de 900. Les familles, on peut estimer autour de 90. Et tout ça pour finalement représenter que les herbicides, fongicides et insecticides. Donc c'est important de garder toujours à l'esprit cette complexité parce qu'effectivement, en termes d'effet de santé, ça a une implication majeure. Alors, on a parlé après on peut parler ensuite des sources d'exposition. Et là aussi, on est dans un domaine assez compliqué. Si on regarde par rapport à la population générale, les sources d'exposition sont diverses, à la fois par l'alimentation, comme vient de le souligner Christian Doué à l'instant, à la fois donc la contamination des aliments et de l'eau de boisson. C'est aussi les activités domestiques de loisirs, de jardinage, que ce soit un jardin, enfin des fleurs, des plantes, ou encore un potager ou un verger. Et puis, la proximité d'une zone traitée peut également entraîner des expositions. Et enfin, au sein de l'habitat lui-même, les sources d'exposition sont multiples, que ce soit pour traiter des volants, des rampants, des insectes extérieurs comme les fourmis ou les guêpes, ou encore les plantes d'intérieur ou nos amis à quatre pattes qui sont également traités contre les puces. Donc vous voyez que c'est finalement là aussi une diversité, une complexité qui n'est pas facile à approcher. Ça, c'est par rapport à la population générale. Pour ce qui est des expositions professionnelles, on se fait tout de suite l'image, et là, il y a beaucoup de représentants de la mutualité sociale agricole qui, effectivement, montrent l'intérêt de cette question par rapport à l'agriculture. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le seul secteur professionnel qui est concerné par ces expositions, même si ce n'est pas toujours les mêmes produits. On utilise aussi beaucoup de pesticides dans la sylviculture et les métiers du bois, dans les espaces verts pour traiter les parcs et jardins, mais des communaux ou autres, mais également les voiries, les lignes de chemin de fer, etc. Et puis dans d'autres circonstances également professionnelles, comme l'hygiène publique, dératisation, désinsectisation, les pompiers qui doivent traiter les nids de guêpes, les vétérinaires qui traitent nos amis à quatre pattes. Tout ça fait que finalement on a un ensemble de professions très vaste, mais il faut reconnaître que le milieu agricole, par sa spécificité, a été un peu un modèle, entre guillemets, disons, la population sur laquelle il était le plus facile de développer des études, compte tenu de l'importance des expositions et d'une certaine classification possible des produits exposants, et donc a permis aussi d'inférer sur des expositions moindres ou dans d'autres contextes professionnels, mais avec une prudence nécessaire, à mon sens, de ce point de vue-là. Alors, le modèle agricole, juste pour resituer, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des schémas et qu'on a traité un certain nombre d'expositions de façon séparée, mais comme dans la vraie vie, ce n'est jamais comme ça, il ne faut pas oublier que si on regarde les effets de santé des pesticides sur les agriculteurs, il y a bien à côté de ça beaucoup d'autres sources possibles, beaucoup d'autres nuisances qui éventuellement peuvent également interférer avec la santé, seules ou en conjonction les unes avec les autres. Donc, j'insiste pas là-dessus, mais c'est pour ne jamais stigmatiser un polluant par rapport à un autre. C'est un ensemble, là aussi, qui doit être pris en considération. Alors, on pourrait raisonner d'une certaine façon en se disant, ben, finalement, de nos laboratoires de recherche dans le cœur de nos villes, puisque c'est quand même là que ça se passe en général, il nous semble que le milieu agricole est quand même en bon déclin et que depuis les années 50, le nombre d'agriculteurs que vous voyez figurer ici sur cette courbe rouge, sur le total des actifs, est dans une phase de décroissance extrême, puisqu'on passe de 6 millions dans les années 1955 à environ 1 million aujourd'hui. Même s'il y a cette décroissance très importante, le problème pesticide ne disparaît pas, d'abord parce qu'il faut gérer l'histoire, et que ces personnes, même à la retraite, peuvent avoir des effets de santé liés à leurs expositions antérieures. Donc, ça concerne quand même, même si on voit ça du cœur de nos villes, 1,3 million d'actifs encore aujourd'hui, un petit peu moins parce que les chiffres déclinent rapidement, et qu'il faut multiplier par deux si on considère aussi les retraités qui ont été un jour exposés. Donc, ce n'est pas un problème mineur, même si la santé publique ne s'est pas souvent intéressée au contexte agricole, en France en tout cas. Alors c'est un problème, vous avez vu le déclin du nombre d'agriculteurs, mais vous voyez aussi qu'en parallèle, on a par contre des courbes de tonnage de pesticides qui n'ont pas du tout décru en parallèle de cette courbe précédente. Bien au contraire, on a vu une augmentation très, très marquée du tonnage de pesticides utilisés au total, mais aussi par catégorie fongicides, herbicides et insecticides au cours des dernières décennies. Ce qui montre que pour les agriculteurs eux-mêmes, individuellement, l'exposition est loin d'avoir diminué. Si on entend très régulièrement le discours selon lequel on utilise des quantités moindres de pesticides à l'hectare, d'accord, mais en termes d'exposition des professionnels, je ne suis pas du tout sûre qu'on puisse aller vers cette conclusion-là. Alors, juste aussi pour souligner une particularité de l'agriculture française qui nous met dans une position un peu différente d'autres pays, avec les fongicides qui sont les produits majoritaires en termes de tonnage, en France, 43% donc de ces pesticides sont des fongicides, devant les herbicides et devant les insecticides. Si je vous avais posé la question, enfin certains d'entre vous sont avertis, je pense que les insecticides vous seraient venus immédiatement à l'esprit, alors que vous voyez qu'ils ne représentent en tonnage, alors il y a des raisons par rapport à ça, mais malgré tout, c'est important de resituer l'importance relative de ces différentes groupe de pesticides. Alors, un autre point important aussi, c'est que la France a une place toute particulière par rapport à cette question et qu'on doit, à mon avis, s'y intéresser aussi pour cette place particulière, c'est qu'on est très clairement les premiers utilisateurs européens de pesticides devant tous nos camarades européens et pas très loin derrière les États-Unis, le Japon et le Brésil. On est au quatrième rang mondial. Donc, c'est évidemment lié à fort secteur agricole français et aux particularités des cultures également qui sont présentes sur notre territoire. Alors, j'en viens aux principales connaissances épidémiologiques sur la question, de façon là aussi schématique, hein, on brosse aujourd'hui un paysage, on ne rentre pas dans les détails, pour dire qu'on connaît d'une part des troubles aigus, et puis c'est la frontière en pointillé que j'ai placée ici, parce que d'ailleurs les troubles aigus peuvent éventuellement préfigurer d'autres problèmes ultérieurement, mais et des pathologies donc plus chroniques qui ont été pour lesquelles l'hypothèse des pesticides a été mise en avant. Donc vous voyez par rapport aux troubles aigus qu'effectivement on a des données, vous le savez par rapport au dossier d'homologation, mais aussi par des circonstances d'exposition en population, que ce soit des intoxications accidentelles ou volontaires, qui sont relevées soit par les centres antipoisons, soit par des systèmes de vigilance développés par la Mutualité sociale agricole telles que FITATITUDE, ou encore par des études de prévalence spécifiques qui ont pu être mises en place dans les populations agricoles. Donc ça, c'est un souci, bien évidemment. C'est un souci encore plus majeur dans un certain nombre de pays qui ne sont pas les nôtres, où les pesticides sont la voie numéro un par rapport aux tentatives de suicide. Donc c'est quelque chose qui est un vrai souci de santé publique dans un certain nombre de pays. Pour nous, la préoccupation vient aussi concernant des effets à plus long terme, que ce soit en termes de troubles de la reproduction, de maladies neurologiques ou de cancers. Je vais y revenir plus en détail ensuite. Mais on commence aussi à explorer d'autres champs, tels que les pathologies respiratoires, les problèmes dermatologiques ou des problèmes immunologiques. Alors, les intoxications aiguës, je vais passer assez vite là-dessus, je vous en ai déjà dit un petit mot, mais il y a effectivement des circonstances qui méritent aussi, en termes d'accidents, d'être parfois investiguées, explorées, avec des intoxications collectives qui ont pu exister dans un certain nombre de pays, par erreur d'utilisation, par exemple, de contenants qui avaient déjà contenu justement des pesticides ou de consommation accidentelle de graines, de semences traitées par des pesticides. Donc c'est des choses qui existent, qui sont dramatiques quand elles se produisent, pas trop fréquemment dans nos pays, mais malgré tout, on ne peut pas désintéresser aussi de cet aspect-là. Alors on a des difficultés pour connaître le nombre exact de ces intoxications aiguës, parce que les symptômes ne sont pas spécifiques, que ça ressemble éventuellement à un épisode grippal banal. Mais, comme je vous l'ai dit, des structures visent à approcher ces questions-là en continu et à essayer d'enregistrer et de regarder l'imputation de ces troubles par rapport aux substances qui ont été éventuellement à l'origine de l'exposition. Je voulais juste souligner un petit point, parce qu'on en a parlé ce matin, on a souligné par exemple les crises qu'il y avait pu y avoir en termes de transfusion sanguine, ou les problèmes liés aux médiators ou à d'autres médicaments, pour lesquels il existe quand même des systèmes de suivi et des systèmes de vigilance. À part FITATITUDE que j'ai cité précédemment, c'est clair quand même qu'on a un souci de traçabilité de ces produits une fois qu'ils sont sur le marché, et que si tôt ou tard on découvre qu'une substance pose un problème de santé aigu, on aura beaucoup de mal à rappeler ces substances ou voir qui a été exposé un jour. Il n'y a pas de système organisé pour arriver rapidement à mettre en place un rappel des substances ou une identification des personnes potentiellement malades. Alors, je vais essentiellement vous resituer l'aspect cancer et l'aspect neurologique. Alors, pour ce qui est du cancer, là, j'ai pris le parti de vous mettre un schéma qui présente des résultats de méta-analyse, c'est-à-dire, en fait, une analyse combinée de plusieurs études épidémiologiques pour calculer un risque global. Et je vous ai mis sur cette figure, en fait, deux méta-analyses qui ont été réalisées, une par un chercheur qui s'appelle Acquavela, qui travaillait chez Monsanto, donc je pense que ça vous parle, plutôt le domaine industriel, et une autre réalisée par Aaron Blair du National Cancer Institute, donc un institut beaucoup plus indépendant et qui s'intéresse donc à l'épidémiologie des cancers. Donc c'est des méta-analyses qui sont un peu anciennes aujourd'hui, mais qui restent d'actualité, qui n'ont pas forcément été justement réactualisées avec des données plus pertinentes. Donc, qu'est-ce qu'on voit globalement par rapport au cancer des agriculteurs? On s'aperçoit que globalement, quand on prend toute localisation de cancer ensemble, on a une diminution du risque. C'est-à-dire que les agriculteurs font globalement moins de cancers que la population générale. Et donc ça, c'est effectivement un résultat très encourageant. Une note positive, on n'en a pas tous les jours, donc on pourrait s'en contenter. Mais le souci, c'est que quand on regarde par localisation de cancer, le schéma n'est plus le même. Et quand on regarde certaines localisations de cancer, en fait, ce qu'il faut lire sur ce graphique, c'est quand on a un trait qui va sur la gauche, on a une diminution du risque par rapport à la population générale, alors que vers la droite, on a une augmentation, et le pourcentage est figuré ici, par rapport à la population générale. Vous voyez que toutes ces localisations qui sont en haut du graphique montrent une sous-mortalité et une sous-incidence de cancer dans la population agricole pour le cancer du poumon, œsophage, vessie, foie, côlon aussi et rein globalement, même s'il y a des études qui parfois ne sont pas toutes complètement cohérentes. Donc, ce schéma-là, évidemment, il soulève un point important, c'est qu'il y a des modes de vie différents en milieu agricole et que certains cancers très liés au tabac, par exemple, sont effectivement en sous-représentation. Et ça ne traduit que ce problème-là, qui globalement impacte la mortalité et l'incidence cancer, toutes localisations confondues. Vous voyez que les agriculteurs étant moins fumeurs, on a une moindre mortalité par cancer du poumon. En revanche, il y a tout un nombre de localisations ici de cancers que vous pouvez voir, qui, elles, sont montrées régulièrement en excès, puisque ce n'est pas une étude, là, c'est l'analyse conjointe de plusieurs études. Donc, que ce soit les cancers de la peau, de l'estomac, le cerveau, la prostate, les lymphomes non hodgkiniens, myélome multiple, leucémie ou maladie de Hodgkin, donc beaucoup de cancers hématologiques, sont montrés en excès en milieu agricole. Et dans les hypothèses privilégiées, les pesticides sont tout à fait au premier plan. Alors si je vous ai montré deux méta-analyses ensemble, ce n'est pas pour compliquer les choses, c'est simplement pour montrer qu'elles vont vraiment dans le même sens, quel que soit le bord, entre guillemets, de la personne qui les mène. Donc ça renforce un petit peu encore le poids de ces résultats. Alors j'en viens aussi à un élément de synthèse, c'est qu'est-ce que le Centre international de recherche sur le cancer conclut par rapport aux pesticides globalement ? Bien, en fait, il a classé en 2A les expositions professionnelles aux insecticides non arsenicaux lors de l'épandage et de l'application. Donc vous voyez que ce n'est pas un pesticide en particulier, ce n'est pas une famille même, c'est globalement ce qui est insecticides non arsenicaux qui a pu être mis en relation avec un risque de cancer, pas en cancérogène certain, mais en cancérogène possible. Et voilà. Donc après, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait 900 substances qui avait été mise sur le marché un jour. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Je m'empresse de le dire parce que c'est vrai que je n'ai pas mis cette nuance tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de produits retirés, donc on est plus autour de 300, 400, je ne sais pas, les chiffres évoluent très vite, molécules aujourd'hui sur le marché. Il n'empêche qu'on a eu pratiquement 1 000 000 mises sur le marché un jour et que parmi tout cet ensemble, la classification ne concerne finalement qu'une soixantaine de molécules. C'est-à-dire qu'on a pu évaluer seulement une soixantaine de molécules. Donc on en revient toujours aux questions qu'on évoquait ce matin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une soixantaine qui sont suspectes par rapport au cancer. C'est qu'il n'y a que pour une soixantaine qu'on a des données suffisantes pour pouvoir faire une évaluation. Et sur cette soixantaine, il y en a un seul qui est en cancérogène certain, c'est l'arsenic, qui a été très utilisé en viticulture, en arboriculture, pour d'autres usages aussi agricoles. Puis en 2A, on a le captafol et dibromure d'éthylène, un ensemble un peu plus hétérogène en 2B. Et la plupart sont donc en 3, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans l'état actuel des connaissances, conclure à un risque cancérogène pour ces substances. Donc vous voyez que c'est un peu pauvre, tout ça, par rapport à l'ensemble des molécules qui ont pu être utilisées. Et c'est effectivement pas complètement en corrélation avec les données chez l'animal, où on a un certain nombre, beaucoup plus de substances pour lesquelles des risques cancérogènes ont été montrés, mais on manque cruellement de données sur l'homme pour pouvoir conclure et classer les substances aujourd'hui de façon isolée. J'arrête sur le cancer, même si c'est très bref. Je vous parle un petit peu de maladies neurologiques. Bon, là, il y a effectivement des éléments forts pour s'intéresser à la neurotoxicité aussi des pesticides, parce que c'est le mécanisme même d'action d'un certain nombre d'insecticides, et qu'on a une caractérisation assez claire du mécanisme pour les organophosphorés ou les carbamates avec inhibition de la cholinesterase. Donc ça aide à mettre en place des études puisqu'on sait qu'il y a une plausibilité biologique. Que par ailleurs, on a pu observer dans des études cliniques un certain nombre de symptômes d'ordre neurologique qui sont vraiment authentifiés en lien avec des pesticides ou des manifestations encore plus nettes, que ce soit des convulsions, des troubles moteurs, des comas, etc. Donc on a des études cliniques, des études de cas qui étayent l'hypothèse à laquelle s'ajoute la possibilité de passer la barrière hémato-encéphalique et donc d'atteindre le système nerveux central. Je vais faire un focus un petit peu sur le Parkinson, même rapidement, pour dire que c'est certainement la maladie neurologique pour laquelle les données aujourd'hui sont les plus consistantes, les plus nombreuses, et on fait le plus d'avancées sur l'aspect neurologique. On a commencé par des études écologiques, au sens où des études sur des populations larges, qui ont montré de plus fortes prévalences de maladie de Parkinson dans des zones où le secteur agricole était fort. Donc ça s'est vu aussi bien au Canada, en Israël, en Californie, et j'ai mis des points de suspension parce qu'il y en a un certain nombre d'autres. Et par ailleurs, on a tout un cortège d'études cas témoins qui ont essayé donc de comparer l'histoire d'exposition aux pesticides chez des personnes atteintes de maladie de Parkinson et des témoins qui n'avaient pas cette maladie. Donc il y a eu une revue aussi un peu ancienne, plutôt une méta-analyse un peu ancienne, mais qui a été confortée par une revue plus récente, qui a calculé des risques combinés. Donc en prenant comme paramètre d'exposition l'exposition professionnelle aux pesticides, le risque combiné est autour de 2. Là, il est à 1,85, mais c'est vrai que bon, si on doit retenir quelque chose de schématique, ça veut dire qu'il y a à peu près un doublement de risque de maladie de Parkinson chez les personnes pour lesquelles une exposition professionnelle aux pesticides est identifiée. L'habitat rural est à un niveau un peu moindre, 1,5, qui est certainement associé au premier paramètre. Et la consommation d'eau du puits montre une légère élévation de risque, non statistiquement significative pour les études qui étaient disponibles à ce moment-là. Quelque part, le bagage d'études commence à être suffisant pour avoir réellement conscience qu'il se passe quelque chose sur le Parkinson, mais on est un peu embarrassé parce qu'on ne peut pas mettre en évidence un secteur agricole spécifique. On ne peut pas mettre en évidence une famille spécifique et on sait qu'il y a certainement des facteurs génétiques qui s'associent à ces expositions pour expliquer le développement de la maladie. Et puis on s'est aussi aperçu que les associations de produits avaient probablement aussi un intérêt particulier puisque sur des modèles expérimentaux, c'est vraiment chez l'animal là que ça a pu être montré, l'association de certaines familles comme les bipyridyles avec les dicarbamates augmente le risque de développement de troubles de type parkinsonien chez l'animal. Donc on se dit que c'est certainement pour ça aussi que c'est compliqué aujourd'hui, c'est que l'association des produits a peut-être plus de sens que de regarder isolément une telle ou telle molécule. Simplement pour dire qu'il y a d'autres maladies neurodégénératives pour lesquelles on se pose aussi des questions, comme la maladie d'Alzheimer. Là, j'ai cité une seule étude qui était faite ici, mais il y en a eu, on va dire, au moins deux autres qui allait dans le même sens, a observé une augmentation de risque de maladie d'Alzheimer chez les personnes exposées aux pesticides d'un point de vue professionnel. On a à peu près le même schéma pour la sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire encore peu d'études, mais malgré tout qui mettent des soupçons forts sur un lien avec les pesticides. Et pour terminer sur les troubles neurologiques, aussi des troubles qui peuvent paraître plus anodins, moins spectaculaires ou graves ou handicapants a priori, mais qui néanmoins posent question, comme des troubles neurocomportementaux ou des problèmes psychiatriques, où on se demande si effectivement les pesticides ne peuvent pas interférer avec avoir un impact sur la fonction cognitive et le traitement de l'information par le cerveau. Alors, on a vu ça sur des intoxications aiguës, on se pose la question sur les troubles chroniques. On se demande si ce sont seulement les expositions aiguës ou éventuellement aussi les expositions prolongées à plus faible dose. Il y a un certain nombre d'études qui se sont développées là-dessus, notamment ici en Gironde, et qui sont donc menées avec des batteries de tests validées pour explorer les fonctions cognitives. On voit dans un certain nombre d'études très clairement une baisse de l'attention visuelle, des altérations de la mémoire, des troubles de l'abstraction et d'autres fonctions cognitives chez les personnes exposées. On a aussi pu faire un lien avec des troubles dépressifs, voire jusqu'à des tentatives de suicide en lien avec des personnes exposées, avec toute la difficulté d'étudier le suicide en milieu agricole et des autres cofacteurs qui peuvent expliquer ça. Donc l'intérêt, c'est que ces troubles un peu précoces, éventuellement, du moins parfois pas toujours cliniquement parlant, peuvent être des premiers signes d'appel par rapport à des maladies neurodégénératives ultérieures. J'en viens aux limites de ces études, même si vous avez vu qu'il y a quand même des éléments qui deviennent avec le temps de plus en plus clairs. On a des limites fortes et c'est pour cela que, notamment sur le cancer, on reste dans des difficultés de classer les substances parce qu'on s'interroge effectivement sur l'exposition aux pesticides et c'est ce qui pose vraiment un souci quand on fait un lien. Là, j'ai mis tumeur cérébrale, mais c'est toute pathologie qu'on essaye de mettre en lien avec les pesticides. Donc de savoir quelle est effectivement la réalité de l'association, très dépendante de comment on a déterminé l'exposition. Et les deux questions clés, les deux questions cruciales qui ne sont pas répondues aujourd'hui, c'est quel est le niveau de contamination des individus. On a énormément d'incertitudes là-dessus. Et vous avez vu à quel point la quantification de l'exposition est cruciale pour étudier des relations dose-effet et donc pour aller vers une notion de causalité des associations. Donc, ce niveau de contamination est mal connu, aussi bien dans le milieu professionnel, même si quelques données commencent à émerger, que pour le grand public. Si aujourd'hui on essayait d'estimer vos expositions individuelles aux pesticides au cours de votre vie, vous percevez bien toute la difficulté qu'il y a à retracer les différentes sources, les différents niveaux éventuels de ces expositions et leur évolution au cours du temps. L'autre question, qui pourrait paraître plus basique, mais qui est aussi complexe, c'est à quelles substances chimiques les individus ont été exposés, puisque vous avez vu la diversité et l'évolution au cours du temps. Donc, comment retracer l'histoire aussi de ces molécules et lesquelles ont été contaminantes au cours du temps. Par rapport aux limites, si les connaissances sont incomplètes aujourd'hui, c'est parce que même si on a pris le milieu agricole comme un modèle intéressant pour étudier ses effets, on a du mal à extrapoler d'un milieu agricole vers un autre, parce que les nuisibles ne sont pas les mêmes, les produits utilisés ne sont pas forcément les mêmes, vers les autres professions exposées que je vous ai citées au début. On n'a pas forcément les mêmes schémas d'exposition, que ce soit dans les espaces verts ou en agriculture, par exemple, ou vers la population générale, où les sources et les modes d'exposition sont encore différents. Donc il y a tout un tas de domaines de santé qui sont encore mal explorés, d'où mon interrogation sur connu, reconnu. C'est pas forcément si simple que ça. Et au-delà de tout ça, est-ce qu'on a aujourd'hui de bonnes stratégies de prévention et est-ce qu'on met les choses en place dans le bon ordre? Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de choses là qui doivent être en voie de progrès. Donc il y a quand même des perspectives, parce qu'on a l'habitude de dire le domaine des pesticides est tellement compliqué. Moi j'ai déjà entendu ça, des chercheurs dire c'est tellement compliqué qu'il vaudrait mieux pas regarder et qu'il vaut mieux pas avancer dans ce domaine. Donc, je pense que c'est assez paradoxal, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Donc je crois qu'il y a quand même des voies de progrès raisonnables. Il faut peut-être avancer pas à pas, mais il y a des possibilités de progresser, à la fois sur la quantification, et donc on a mené tout un tas d'études pour notre part, mais d'autres le font aussi, sur le terrain pour essayer de comprendre les niveaux d'exposition, à la fois connaître les niveaux, mais aussi les déterminants de l'exposition, qu'est-ce qui fait que telle personne s'est plus ou moins exposée qu'une autre, et puis de qualifier les expositions en utilisant des outils un peu différents, différents, et qui permettent de connaître la probabilité, la fréquence, l'intensité d'exposition à des substances données, donc en mettant en place ce qu'on appelle nous des matrices activité-exposition ou contexte agricole-exposition. Je voulais mettre un éclairage sur les spécificités régionales pour dire que localement ici, il y a des centres d'intérêt plus forts sur certains domaines, notamment évidemment 3 minutes, donc j'accélère, notamment sur le secteur viticole, évidemment, puisque là, vous voyez, c'est les taches qui sont couleur vin, peut-être, ou vin un peu foncé, qui sont apparentes ici. Le maïs est un secteur fort également, bien sûr, et la sylviculture est un centre d'intérêt aussi. Je ne vais donc pas du tout détailler, mais pour vous dire qu'il y a tout un ensemble d'études épidémiologiques qui ont été menées depuis 15 ans, moi je vais oser le dire, au laboratoire santé, travail et environnement, et qui s'appuient sur des populations locales, pour essayer d'avancer sur les questions que je vous ai posées précédemment, sur les troubles neurologiques en particulier. Donc, je passe l'étude phytonaire, c'est dommage. Non, je ne la passe pas parce qu'elle est faite avec la mutualité sociale agricole. Donc, c'est une étude qui... je savais trouver les bons arguments pour prendre un peu plus de temps. Donc, où on s'est intéressé à l'altération des fonctions cognitives chez des personnes exposées aux pesticides en regardant des tests plus spécifiquement. Et on a vu effectivement qu'il y avait des altérations qui étaient liées aux expositions, qui semblaient avoir des gradients différents selon si ce sont des expositions directes ou indirectes. On a suivi ces populations, on a vu que ces altérations étaient confirmées au cours du temps, et on a aussi vu que l'exposition pouvait influencer la détérioration, au moins sur un test pour l'instant, entre l'inclusion et le suivi. Donc c'est des choses qui se confirment sur l'impact des pesticides sur la cognition, au travers de cette cohorte d'agriculteurs girondins, viticulteurs principalement. Une autre étude que je vais passer plus rapidement, parce qu'elle n'est pas faite, hein, avec la mutualité sociale agricole, non, je plaisante, donc c'est l'étude sur la tumeur cérébrale, qui effectivement a été une étude 4 témoins, qui a essayé d'approcher le lien entre tumeur cérébrale et pesticides, et pour lesquels on a pu voir une élévation de risque pour les personnes les plus exposées, et plus particulièrement pour un type de tumeur qui était les gliomes. Donc on participe aussi à la cohorte Agricant, qui est une cohorte nationale, qui, elle, explorera plus précisément le cancer, qui se déroule dans tout un tas de départements français. Ça, c'est la matrice. Donc ça, je vous ai expliqué qu'on a fait des études de terrain pour essayer de comprendre les niveaux d'exposition et leurs déterminants dans différentes tâches. Et une illustration sur laquelle je me pose quand même un petit peu pour vous montrer que ces études de terrain ont permis de progresser en termes de niveau d'exposition et qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses probablement qui changeaient la façon de voir. Donc vous vous êtes rendu compte, ça vous avez les niveaux médians de contamination cutanée en fonction donc des types de tâches, ici c'est les journées de traitement, ici c'est des journées de réentrée, ici c'est des journées de vendange, donc des gens qui sont dans des tâches très différentes et a priori pas exposés de la même façon. On s'aperçoit quand même que finalement les tâches de réentrée peuvent exposer pour un certain nombre de personnes davantage que des journées de traitement, alors qu'elles sont effectuées un nombre de jours beaucoup plus important que les journées de traitement, et que les vendanges qui nous paraissaient vraiment très à distance des expositions et des traitements ne sont pas négligeables non plus, et que quelqu'un qui ferait 14 journées ou même une dizaine de journées de vendanges pourrait se retrouver au même niveau d'exposition qu'une personne pendant une journée de traitement. Donc il y a des choses à revoir, à mon avis, dans la conception et dans la perception des contaminations au milieu agricole. Alors là, c'est pour vous montrer, tout à l'heure je vous ai montré la peste, pas les cholérins, mais la peste et la mort. Donc là, vous avez des illustrations de publicité par rapport aux pesticides. Donc vous voyez qu'elles sont beaucoup moins négatives et beaucoup plus proches de la nature qu'on pourrait s'imaginer, même le gaucho, avec ces petits poissons qui se font la bise là. Donc vous voyez qu'on est sur des images très positives de force, de puissance et de nature. Donc c'est ce qu'on appelle, j'ai vu qu'il y avait un mot approprié maintenant qui s'appelle le greenwashing, ce qui veut dire qu'en fait, on met, si j'ai bien compris, on fait rentrer l'écologie dans tous les domaines possibles pour donner une image, pour laver de façon verte les images. Je crois qu'on est complètement là-dedans, même dans les pesticides. Donc c'est quand même assez intéressant de le noter. Vous avez le Roundup, c'est le glyphosate, hein, pour ceux qui le connaissent moins. Il y a quand même des fois des choses qui sont là destinées aux professionnels, mais qui traduisent peut-être une autre réalité qui est effectivement les enjeux économiques qui sont derrière. Donc là, vous voyez, ce sont des billets hein, qui sont roulés comme des bottes de foin. Donc c'est une publicité pour un pesticide, hein, ce n'est pas autre chose. Voilà, donc c'était pour vous montrer l'image aussi que la société a aujourd'hui de ces produits-là, qui cherchent à contrecarrer l'image négative qu'elle a pu avoir dans le passé. Donc je remercie évidemment toutes les personnes qui ont aidé à la réalisation des études et qui continuent de les soutenir. Et puis je vous remercie de votre attention.
Mais de façon très précise, est-ce que, parce que tu as parlé beaucoup des niveaux d'exposition, mais est-ce que la durée d'exposition, le temps d'exposition, parce que on sait très bien que l'activité est quand même très, très séquencée, quoi, par rapport à ça, est-ce que la durée d'exposition a un impact sur la fréquence, quoi, de la pathologie?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, on n'en est malheureusement pas à répondre à ça de façon claire. On essaye pour l'instant d'avoir justement une relation entre une quantification et un effet de santé, et on en est juste au début de ça. Donc c'est vrai que c'est important cette notion de durée. Je vous l'ai dit, mais un peu rapidement, les journées de traitement, ça représente 5 à 10 jours par an, ou pas forcément beaucoup plus, éventuellement 15 ou 20, mais disons que ça ne va jamais plus loin. Et ça, répété effectivement un certain nombre d'années, mais pas forcément une exposition continue. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là et en parallèle voir que, par exemple, les tâches de réentrée vont être répétées, elles, beaucoup plus dans une vie ou dans une saison de travail. Donc, pour l'instant, on en est justement à intégrer à la fois cette notion de durée, cette notion de niveau d'exposition, en essayant de faire le moins faux possible, même si on ne sera jamais juste, en mettant chacune des tâches à leur place et en quantifiant la totalité à la fois sur une journée, mais aussi sur une vie d'exposition. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu d'études qui croisent cette quantification avec l'effet de santé. C'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à avoir des seuils éventuellement et des notions claires par rapport à ça.
Je voulais juste avoir une précision sur la réentrée. C'est tout ce qui n'est pas les jours de vendange ou de traitement?
C'est tout ce qui est tâche en relation effectivement avec les végétaux traités. Donc c'est quand on revient, là c'était les vignes, hein, cet exemple-là, quand on revient pour toutes les tâches, parce que la vigne a du travail toute l'année. Donc voilà, tout ce qui n'est pas traitement, tout ce qui peut être épamprage, ébourgeonnage, etc.
Il restera après à voir quel est l'impact des pesticides, non pas chez les agriculteurs, mais sur l'alimentation que nous ingérons en permanence tous les jours, quoi. Deuxième question, je dirais, qui va se poser à terme. C'est surtout ça qui peut intéresser, entre guillemets, la société civile, quoi.
Oui, c'est là qu'on a une difficulté en termes de hiérarchisation en fait, des expositions et des risques, au sens où déjà on se place dans un autre domaine quand on considère la population générale, on n'est plus du tout dans le même schéma. et qu'aujourd'hui, on a l'idée, un peu préconçue à mon sens, mais il faudra voir, peut-être que c'est la réalité, que l'alimentation est la source principale d'exposition de la population générale. Ça reste à démontrer, je pense qu'on s'appuie là-dessus peut-être un peu trop solidement, et je pense surtout que c'est très variable et déclinable en fonction des substances. C'est-à-dire que si on prend les pyréthrinoïdes, par exemple, je ne suis pas du tout sûre que ce soit forcément l'alimentation qu'il faille mettre sous le feu des projecteurs. Donc il y a une réflexion qui est balbutiante, je pense, là-dessus. Dans notre laboratoire, il y a Guylaine Bouvier qui va essayer d'approcher un petit peu aussi cette dimension population générale, qui a déjà travaillé sur ce sujet quand elle était en Ile-de-France. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses effectivement à comprendre dans les hiérarchies de ces différentes sources d'exposition. Mais c'est ce qui parle le plus au grand public, c'est l'alimentation. C'est toujours le problème après des images et des représentations qu'on peut en avoir.
Alors, il y a une... C'est intéressant parce qu'il y a une étude qui va se mener en Gironde sur l'environnement, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas agriculteurs, qui manipulent pas les pesticides, mais qui sont très proches, je dirais, des zones agricoles dans lesquelles il y a des traitements, quoi. Donc il y a une étude qui est en cours, là, qui va être menée, là.
Oui, donc je dis un petit mot là-dessus, c'est vrai, je suis passée dessus, mais il y a des gens qui sont impliqués dans cette étude-là, dans la salle également. C'est une étude qui se mène en collaboration avec la CIR Aquitaine, et également le LSTE est également impliqué. Et un certain nombre d'autres organismes font partie également du comité de pilotage. Donc c'est une étude qui vise à regarder les effets potentiels possibles, principalement des symptômes aigus respiratoires, pour les personnes qui habitent à proximité de champs traités. Donc on est en train de regarder ça. L'étude s'est faite cet été. On n'a absolument pas de résultats à vous donner aujourd'hui. Mais on essaye d'avancer aussi sur cette question-là, même si c'est la première étude qu'on fait dans cette direction.